nous y revoilà. Nous sommes à nouveau en direct. Le temps, changement de plateau. Là, ça y est, on commence à avoir le tempo, Yo. Hein. On a mis quelques heures à se caler. Ça y est, le soleil, c'est bon. Il pleut plus.
Et demain, on sera chaud bouillant. J'espère que vous revenez demain parce qu'il y a encore plein de lecteurs, plein d'éditeurs, plein de poètes.
Donc, on va dormir là. Hein. On va en profiter. Oui. Pour une fois qu'on peut faire camping sur la place Saint-Sauveur sans être emmerdé par les bleus, je veux dire que là, on va pas se gêner. On va faire brûler des palettes. On va chauffer de la saucisse. Autant dire que le maire de Caen, ce soir, il va y avoir l'ambiance sur ta place.
Et puis s'il n'y a plus de toilettes, il y aura bien de quoi faire du feu dans la grande tente blanche.
Oui, on va brûler quelques bouquins. Mais non, je déconne. Voilà. Pas notre genre.
Non.
Voilà. Nouvelle équipe, là.
Nouvelle
c'est la troisième.
Nouvelle équipe.
On situe le contexte quand même. Hein.
Alors, le contexte. Mathieu Larnaudy est venu accompagner des lycéens de Victor Hugo écrire sur le chamboulement, le basculement d'une vie. Ils ont écrit, certains ont écrit, d'autres lisent. Donc nous avons un groupe là, composé de Raphaël, Camille, Agathe, mais également Thomas, Juliette, Elsa, Kanji et Lucie, qui vont nous lire en public et en direct sur les ondes de Radio Bazarnaum.
Voilà, et on peut inviter aussi les spectatrices et spectateurs et auditrices et auditeurs d'ailleurs du direct à se rapprocher un petit peu de notre maison radio, notre petite maison de la radio, la seule qui travaille aujourd'hui puisque France Bleu est en grève, hein, donc on a pris le relais, hein, ils ont beau avoir des calicots partout, ils font les malins, mais n'empêche qu'ils bossent pas aujourd'hui, donc c'est nous qui allons piquer tout ce qu'ils devaient faire.
Toute la part de marché, mais apparemment, je sais pas si c'est une vraie info, parce qu'ils doivent pas être tous en grève, apparemment ils bossent quand même.
Donc vous pouvez vous approcher un petit peu, vous pouvez même vous asseoir si vous voulez sur les pavés, ils sont stérilisés, il n'y a pas de problème, au prix où ils ont coûté, ils méritent bien d'avoir vos jolies petites fesses dessus, je pense que vous n'hésitez pas, voilà, comme ça, ça va être plus chaleureux pour celles et ceux qui vont lire. Voilà, petit moment de lecture à haute voix sur cette place Saint-Sauveur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est quand vous voulez.
Le temps glisser un clin d'œil à notre grand Manitou, Nabab, le grand chef, quoi, celui qui, du bout de ses doigts, envoie le son et la lumière sur cette place Saint-Sauveur.
Le bien-nommé
Monsieur
Edouard.
Potard, si vous êtes là, c'est parti.
Maria Magdalena Frida Carmen Calo Calderon a 18 ans. Elle a 18 ans et est ambitieuse. Elle a 18 ans et est bonne élève. Elle a 18 ans et son pied a été touché par la polio 12 ans plus tôt. Il ne grandit plus, alors elle boite. Elle a 18 ans et souhaite devenir médecin. Maria Magdalena Frida Carmen Calo Calderon a 18 ans. Sa journée de cours est achevée et elle pose son pied boiteux sur la marche du bus qui la déposera chez elle. D'un sourire, elle salue le chauffeur, installé confortablement sur son siège inconfortable. D'un bruit de pas irrégulier, elle avance le long de l'allée et trouve une place côté fenêtre. Le bus est peu rempli, une dizaine de personnes peut-être. Une jeune fille d'environ 13 printemps est installée sur le siège d'en face, rigolant avec sa voisine, lui racontant quelques anecdotes scolaires. Plus loin, vers l'avant, un homme d'une trentaine d'années regarde la route, l'air songeur. Il tient fermement entre ses deux mains un petit sachet de poudre dorée. Une fois tout le monde installé, la porte du bus se referme et celui-ci reprend sa route, couvrant alors les conversations de ses passagers d'un lourd bruit de moteur. Doucement, le bus passe les feux et les virages lorsque soudain, l'homme assis à l'avant lâche son petit sachet et une pluie de pellicules dorées se dépose sur les personnes présentes dans le véhicule, tandis qu'une barre en métal déchire l'abdomen de Maria. Sa colonne vertébrale craque à plusieurs reprises. Et pendant que son esprit réalise que le bus est sur le dos, à quelques mètres d'un tramway déraillé, ses yeux se dirigent vers le chauffeur qu'elle a salué il y a de ça quelques minutes et voit son visage ensanglanté, s'étant probablement écrasé contre le volant. Alors, son regard dévie pour se poser sur les deux adolescentes dont les rires ont cessé. Elle voit le visage éteint de l'une, tandis que celui de l'autre est caché par son sac à dos. Il vaut probablement mieux. Elle n'a pas l'air en bon état au vu de son bras désarticulé. La tristesse se mêle à la douleur de la jeune femme de 18 ans, pendant que dans un vain espoir, elle regarde en direction de l'homme de 30 ans. Il s'était attaché, lui, mais n'a pourtant pas survécu. Et le poids de son corps repose en l'air sur la mince ceinture, dite de sécurité, qui s'apprête à céder. Le temps s'est arrêté. Et dans le silence pesant de l'accident, quelques poussières d'or se posent sur les paupières de la jeune boiteuse pour se mêler à ses larmes. Maria Magdalena Frida Carmen Calo Calderon a 18 ans et est en salle d'opération. Seulement, ce n'est pas elle qui soigne, mais elle qui est soignée.
Comme vous l'avez dit, je reviens de loin. Tout a commencé au lycée, j'avais 17 ans. Au départ, j'écoutais beaucoup de rap, mais je ne voulais pas spécialement en faire. J'avais pas le temps entre les cours et mes problèmes familiaux. À cette époque, mes meilleurs amis, eux, rappaient. J'étais leur premier fan et au fur et à mesure, j'ai décidé d'essayer. Et j'ai direct kiffé, les open mic et les freestyles entre potes. Mais la même année, je me suis retrouvée à la rue, à cause de mes conneries au lycée et en dehors. Ma mère ne pouvait plus me gérer. Heureusement qu'il y avait tous mes frères qui m'ont recueilli. À cette époque, on séchait tous les cours pour rapper. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. On a créé le groupe nommé 1995. On s'est fait connaître partout dans la capitale grâce à nos nombreux freestyles. On a créé notre propre label et on a sorti un album, La Source. Mon premier clip a atteint les 65 millions de vues en un mois. Mon album était le plus vendu de France. Toutes les chaînes voulaient Nekfeu sur leur plateau. Cette année a marqué le début de ma vraie carrière. J'avais atteint mon premier objectif. Maintenant, je n'ai plus qu'à remercier mes amis, mais aussi le public français pour tout ce qu'ils m'ont apporté. J'ai désormais 26 ans et tout le monde connaît Nekfeu, si j'avais su ça il y a 9 ans.
Tout a commencé en 1952, lors de la séparation des deux Corées, puis tout s'est dégradé petit à petit. 1960, 1970, effondrement économique. 1970, 1980, effondrement du système soviétique en Corée du Nord. 1972, le commencement de la dictature de Kim Il-sung. Et nous voilà dans les années 90, lors de la grande famine. Je m'appelle Yeonmi Park. Je suis née le 4 octobre 1993 en Corée du Nord et voici mon histoire. Première partie. J'habite dans un village dénommé Haesan, dans le nord du pays, près de la frontière chinoise sur les rives du Hamnok. Comme la plupart des Nord-Coréens, je vis dans une famille très pauvre. Je vis dans une petite maison avec ma grande sœur, Yeonmi, mon père et ma mère adulte, Kim Il-sung. Pour nous, c'est un dieu. Il se revendique comme tel. Dans notre pays, il est celui qui fait que le soleil se lève le matin. Pour nous, il a repoussé les Japonais qui voulaient prendre notre pays. Deuxième partie. Ce soir-là, mon père est venu me voir à l'hôpital avec ma mère. Il ne savait pas où était Yeonmin. Elle avait disparu. Deux semaines plus tard, ma mère et moi sommes partis. Mon père, lui, est resté. Nous étions habillés de noir que nous avaient donné les passeurs. Nous les avons retrouvés à l'endroit prévu. Ils nous attendaient. Là, nous avons traversé le Hamnok. Ici, l'hiver, la température peut descendre jusqu'à moins 40 degrés. Nous pouvions mourir. Nous avons traversé le Hamnok sans problème, malgré le froid. De l'autre côté, une voiture nous attendait, ainsi que des nouveaux vêtements. L'un des hommes a emmené ma mère derrière un bâtiment. J'ai entendu crier et pleurer. J'ai su, plus tard, qu'elle s'était fait violer. Troisième partie. Nous sommes passés par le désert de Gobi. Nous étions un petit groupe de 10 personnes environ. Après avoir marché plusieurs jours, nous avons trouvé la sortie de cet enfer. Nous nous sommes fait emmener par la NIS, puis nous sommes restés quelques mois dans un centre d'intégration. Le 26 août 2009, nous avons eu nos papiers, puis nous avons loué un appartement à Cheonan. La Corée du Sud est magnifique. La technologie ici est incroyable. Les gens sont propres et gentils. La nourriture est délicieuse et nous sommes logés. Nous étions enfin libres, mais il nous manquait encore Yeonmi. J'ai essayé de reprendre mes études. Moi, qui suis du niveau d'un enfant de CE1 à 16 ans, je me suis lancé un défi. Lire 100 livres en une année, et j'ai réussi. Je suis entrée à l'université de Dongkuk, à Séoul, où j'ai appris le droit. Ma mère a retrouvé l'amour. Malheureusement, il l'a bas. Après notre arrivée en Corée du Sud, j'ai eu une offre d'interview. Je l'ai acceptée. J'ai raconté les horreurs de la Corée du Nord et on m'a proposé de tourner une émission « Now on my way to meet you ». Cette émission consistait à faire entendre l'histoire des Nord-Coréens et Coréennes et à les aider à retrouver quelqu'un de disparu. Là aussi, j'ai saisi l'occasion. Il fallait que je retrouve Yoon-mi.
ans, étudiant le droit à la Sorbonne. Je reprends le cabinet d'avocat de mon père, à Nantes. Moi, ne voulant pas, je me consacre à l'écriture. Roman d'aventure. Un certain jeudi 23 juillet 1849, je rencontre mon ami et écrivain Pierre Chevalier, tout comme moi né à Nantes. Je sens qu'il y a une connexion entre nous. Peut-être grâce à nos origines bretonnes communes. Ayant lu presque tous ses livres, je lui livre mon opinion sur ses récits. Je lui dis aussi que ses romans d'aventure et de voyage sont passionnants. Je lui annonce que je veux devenir romancier, tout comme lui. Je lui demande son avis. Quittant son appartement, pour rentrer chez moi, je m'assois sur un banc pour allumer une pipe, mais aussi contempler les étoiles. Dans un questionnement profond concernant mon avenir encore incertain, je fixe le ciel. Et là me vient l'idée d'écrire sur les parties encore inexplorées de la Terre et de l'espace, telles que la Lune. Je crie alors Eureka, à plein poumon, dans un Paris profondément endormi. Je cours chez moi composer un livre sur un voyage, de la Terre à la Lune.
Est-ce donc ici que mon aventure se termine ? J'agonise, le ventre me brûle. Des gouttes de sueur dégoulinent le long de mon visage. La fièvre me prend en permanence. J'ai mal, mon corps tout entier me lâche. Je me sens partir, je n'ai plus la force. Le regard dans le vide, je repense à ma vie. Une vie courte, certes, mais une vie où j'ai vécu. Depuis tout petit, je voulais voyager. Découvrir le monde, rencontrer des gens d'horizons différents. Je voulais voir la beauté que la nature a à nous offrir. J'ai toujours aimé ces endroits délaissés de toute influence humaine. La nature y est telle qu'elle a toujours été. Je rêvais de voir ça de mes propres yeux. C'était ça, mon rêve. Et aujourd'hui, je l'ai réalisé. Je ne voulais pas de cette vie que l'on nous impose, faite de règles et de normes que revendique une société parfaite. Non. Je ne voulais pas de cette vie où l'on ne vit pas.
Beaucoup de gens ont des rêves, des utopies, mais la normalité empêche souvent de les réaliser. La peur de l'inconnu, de gâcher tout ce qu'on a construit depuis tout petit. Joue aussi sur la réalisation de nos rêves. De nombreuses personnes meurent sûrement avec des regrets, avec cette impression de ne pas avoir entièrement vécu ce qu'elles auraient pu vivre. Et moi, je ne voulais pas de tout ça. C'est pourquoi je suis parti. La vie est faite de choix, et moi... j'en ai pris un. Ce choix était peut-être égoïste et j'en suis conscient.
C'est vrai, j'ai tout quitté. Tout. Du jour au lendemain, sur un coup de tête. J'ai abandonné ma famille, mes amis. Ils doivent sûrement me croire mort à présent. J'ai dû les rendre malheureux et ce n'est pas ce que je voulais. Mais à vrai dire, je n'étais pas heureux là-bas. À leur côté, le sentiment de solitude et d'oppression me traversait chaque jour que je vivais. J'étais seule, bien plus que maintenant.
Je ne suis désormais plus qu'un souvenir pour les autres. Je n'existe plus. Il faut dire ce qu'il est, je suis seul, sur mon lit de mort, perdu au fin fond de l'Alaska dans un vieil autobus abandonné. Seul au monde. Pourtant, entouré dans cette nature flamboyante, dans mon jardin d'Éden, je suis heureux.
Je revois tout ce que j'ai traversé, pour mon bonheur, C'était mon odyssée vers la liberté. Perdu au milieu de terres inconnues, sans autre but que de vivre, j'ai été heureux et libre. Moi, Christopher McCandless, aux derniers instants de ma vie, je ne me suis jamais senti aussi vivant.
La toute première fois que j'ai rencontré John, il était sur le point de monter sur scène avec son groupe Les Carrymen. L'un des membres du groupe me connaissait de l'école. Il m'a présenté à ses acolytes. Lennon avait 16 ans. J'en avais 15. Ce jour-là, on était le 6 juillet 1957. Et pour le monde entier, la réunion la plus importante dans l'histoire du rock était sur le point de se tenir. Après avoir discuté pendant quelques minutes, je lui ai montré comment accorder sa guitare. J'ai ensuite commencé à lui jouer quelques chansons rock'n'roll, y compris des couplets de Little Richard et Gene Vincent, pour lui montrer de quoi j'étais capable. Puis, les Carrymen ont joué. Je pensais, eh bien, John a l'air bon, il sait bien chanter. Il avait ôté ses lunettes. Il était vraiment le seul membre exceptionnel. Le groupe a joué une chanson qu'ils avaient entendue à la radio le soir avant le concert. Sauf que les paroles n'étaient pas les bonnes. John les inventait au fil de la chanson. Après le concert, John et moi sommes allés discuter au bar du coin et nous avons menti sur notre âge pour nous faire servir. Lennon a été tellement impressionné par mon talent et mes connaissances en musique que lui et les autres membres m'ont demandé de rejoindre le groupe. Je sus, à cet instant, que nous avions franchi une barrière dont personne ne connaît les limites, sous de nouvelles formes et de nouvelles couleurs. J'ai senti mes émotions ainsi que celles de John se mettre en disponibilité, prêtes à être exprimées avec passion. La main de Dieu s'était posée sur nous pour nous bénir, pour nous transmettre ces messages qui sortaient de nos voix, de nos mots, de nos paroles.